Bienvenue à chacun. Bonjour à tous pour ceux que je n'ai encore pas vus. Bonjour pour tous ceux qui sont à la maison. Merci au groupe de louanges pour ce moment qui nous a tellement aidés à nous centrer sur le Seigneur. Moi, ça m'a fait le plus grand bien de pouvoir fixer mes yeux sur le Seigneur. Parce qu'on a un Seigneur merveilleux. Et on a tellement besoin de lui. Je ne vous apprends rien si je vous dis que nous vivons dans une société individualiste, consumériste et hédoniste. Ouf. On est dans une société individualiste, c'est-à-dire que tout est fait pour l'individu. Moi, moi, moi. Mes besoins, mes besoins, mes besoins. Dans une société qui est consumériste, c'est-à-dire qui consomme. Je veux tout ce dont j'ai envie et je le veux tout de suite. Et on est dans une société hédoniste, c'est-à-dire une société, la société du plaisir. Ce que je veux, c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui me fait plaisir. Ça te fait plaisir? Ben vas-y, fais-le. C'est ce que tu as envie? Vas-y, fais-le. Ça, c'est la mentalité dans laquelle est actuellement notre société. Ça fait un moment que ça a commencé comme ça. Mais c'est le cas de plus en plus. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que dans l'Église, je ne parle pas de notre Église spécifiquement, dans l'Église en général, cette mentalité est venue aussi. Pourquoi est-ce qu'on va à l'Église? Pourquoi est-ce qu'on change d'Église? Qu'est-ce que l'Église peut m'apporter? Ah, elle m'apporte plus rien, je vais ailleurs. Ah, la forme ne me convient plus. Ah, je commence à vraiment ne plus supporter les gens qui sont dans l'église. Faut que j'en voie d'autres. Ça me fait penser à cette image, elle n'est pas de moi, mais elle me travaille tellement ces temps. Elle est de Bonnefère. Je n'ai pas le temps de vous parler de cet homme. Peut-être que ça viendra un jour. Peut-être que vous le connaissez. Quelqu'un qui a payé de sa vie durant la Deuxième Guerre mondiale, qui est décédé à l'âge de 39 ans et qui était un brillant théologien, tellement proche du Seigneur. Il s'est opposé à Hitler, il était allemand. Et il a parlé de l'Église, de la communauté des chrétiens. Et il a fait cette analogie entre un jardin et une serre chauffante. Et ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que les chrétiens, on recherche une autre forme d'Église de plus en plus, parce qu'on est aussi pris par cette mentalité du monde et on cherche des serres chauffantes. Un endroit où on va bien s'occuper de nous, un endroit où on sera à l'abri de trop de soleil, à l'abri des pluies, à l'abri du vent, à l'abri de l'hiver. La température, elle est toujours la même. On peut s'épanouir, toutes les fleurs sont bien rangées. Tandis qu'un jardin, eh bien, on est à l'extérieur, avec une diversité de plantes, de formes, de couleurs, d'âges différents, des petites, des grandes, des robustes, des fragiles. On est soumis aux tempêtes, à l'adversité, on est soumis à la neige, au froid, au changement de saison, mais sous le soleil de la justice, sous le soleil de Dieu. Et parce qu'il y a toute cette diversité voulue par Dieu, eh bien, on se complète, on s'entraide, on grandit ensemble, on mature ensemble. Et quand la végétation est mature, elle fait éclore ses graines, elle sème ses graines et ça redonne encore de la végétation pour l'année suivante, pour la saison suivante, et elle donne du fruit. Elle ne craint pas que tout à coup le chauffage tombe en panne, elle ne craint pas que quelqu'un oublie de fermer la porte de la serre, parce qu'elle est habituée, elle s'est fortifiée à vivre toutes sortes de situations. Dans un jardin, c'est bien d'avoir des serres chauffantes. Il en faut pour les moments où les plantes sont fragiles, parce qu'il y a des moments où les plantes, elles ont besoin de soins. C'est nécessaire. Et ça, c'est un des mandats de l'Église. Mais l'Église ne devrait pas être la serre. Il y a des serres dans l'Église. Seulement, dans nos mentalités, on vient pour consommer, pour être guéri, pour que ça nous fasse du bien. Il y a une partie de juste, mais il y a une partie qui est excessive. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on a célébré la fidélité de Dieu, on en a besoin. Et moi, je peux vous dire que ces chants qu'on vient de chanter, je me les suis vraiment appropriés parce que j'en ai besoin. Mais ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer d'entrer dans une autre mentalité où, au lieu qu'on soit recroquevillé sur nous-mêmes et nos besoins, nos désirs ou nos difficultés, qu'on puisse s'ouvrir avec tout notre être qui est attiré vers le roi de gloire, que nos yeux soient fixés sur ses yeux, sur sa bouche, sur ses mains. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire pour pouvoir le suivre? Je vous invite à entrer là-dedans et nous en avons tous besoin. En tout cas, moi, la première, je suis désespérée de voir combien je suis aussi touchée par cette mentalité du monde. Alors, c'est aussi une exhortation que je fais à moi-même. Jour des rameaux, il fallait qu'on lise. Je vous invite à lire Luc 19. Luc 19, à partir du verset 28. Et pour petit rappel, on a suivi Jésus du chapitre 1 au chapitre 9, 51, en Galilée. Et là, Jésus, il a proclamé la parole d'Ésaïe 61 au début de son ministère en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles. » Il a proclamé cette parole en disant « Aujourd'hui, elle est accomplie. » Et ensuite, en Galilée, il a prouvé que cette parole était accomplie en lui. Il a ouvert les yeux des aveugles, il a redonné la marche, la mobilité aux boiteux, il a délivré les captifs, il est allé rencontrer des prostituées, des collecteurs d'impôts, les personnes qui étaient les plus basses couches de la société, il est allé les rechercher et les relever. Il a prouvé que cette parole était accomplie en lui. Et ensuite, il a pris la route pendant 10 chapitres, de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Il a traversé villes et villages, toujours pour proclamer le royaume de Dieu. Il faisait de moins en moins de miracles, mais il était de plus en plus pris à partie parce qu'il y avait de plus en plus l'esprit religieux qui se manifestait, autant chez les pharisiens, mais aussi dans la foule. Et aujourd'hui, Luc 19, on est tout proche de Jérusalem. Jésus s'apprête à entrer à Jérusalem. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ? » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'anneau ? » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples !» Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moment, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et aujourd'hui, on sait que cette parole prophétique s'est accomplie. Jérusalem a été assiégée pendant environ une année et en l'an 70, sous l'empereur Titus, une brèche a pu être faite dans la muraille. Le feu a été mis à la ville, au temple en particulier. Le temple a entièrement brûlé. Et comme il y avait beaucoup d'or, beaucoup de richesses dans le temple, le feu était tellement énorme que cet or a fondu. Alors, quand l'incendie s'est arrêté, toutes les pierres ont été retournées pour aller gratter et récupérer l'or qui s'était déposé un peu partout. Il n'est pas resté pierre sur pierre. Mais reprenons le texte. Alors que Jésus approche de Jérusalem, Jérusalem qui est sa destination finale, c'est son focus, Jésus donne un ordre à deux disciples. Et là, on a quelque chose de nouveau. Jésus leur dit, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est assis. Détachez-le, amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Il donne des consignes, il donne un ordre. Il dit, les choses vont être comme ça, je vous décris le cadre. Ça va être comme ça, il va se passer ça, on va vous demander ça, vous faites ça, vous répondez ça. C'est précis, les choses que les disciples doivent faire. Mais il n'explique pas pourquoi. Il dit pas, allez me chercher un ânon parce que j'en ai besoin pour faire ma monture. Il n'explique pas. Et il n'y a rien dans le texte qui dit que les disciples savent pourquoi il l'envoie chercher cet ânon. Parce que s'il le savait, il n'aurait pas dit les choses de cette manière-là. Il leur aurait dit, mais l'ânon dont je vous ai parlé, c'est maintenant qu'il faut aller le chercher. Il se trouve à tel endroit. Non, c'est comme si Jésus, pendant tout son ministère sur terre, il a voulu faire comprendre qu'il s'est abaissé. En étant pleinement Dieu, il s'est incarné en homme pour devenir un vis-à-vis. Il a partagé notre condition d'homme, notre condition humaine. Et il nous a permis d'avoir un cœur à cœur, un vis-à-vis, d'avoir les mêmes limitations que nous en tant qu'être humain. Mais là, tout à coup, même s'il avait déjà donné des directives, c'est comme si il y a cette espèce d'équilibre qu'il y avait, il est en train de changer. Il y a un espace qui se fait entre Jésus et ses disciples. Jésus est en train de dire, oui, je suis homme, oui, je me suis abaissé, je vais même m'abaisser encore davantage, mais je suis plus élevé que vous. C'est moi qui ai l'autorité, c'est moi qui suis le chef, c'est moi qui suis le roi, c'est moi qui commande. Et il n'y a même pas de question à poser. Il y a quelque chose, une intensité qui est en train d'augmenter. Alors la question pour nous, mais c'est comment est-ce qu'on réagit en tant que disciple quand on reçoit des ordres, quand on reçoit des ordres de notre Seigneur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le message que Jésus y fait passer à ce moment-là, c'est trois choses. Ça fait 3 ans et demi qu'il chemine avec les disciples. Les disciples, ils ont eu le temps de grandir, de mûrir spirituellement. Alors Jésus, il est en train de reconnaître, de mettre en valeur que les disciples, ils ont grandi. Et il leur fait confiance. Il leur envoie un ordre parce qu'il leur fait confiance qu'ils vont obéir. Il veut aussi montrer que son désir à Jésus, c'est de travailler avec les disciples. C'est d'en faire des partenaires, des collaborateurs. Parce que Jésus, il aurait pu répondre à ses besoins tout seul. Mais il décide de travailler avec eux, avec nous. Et, comme je vous l'ai dit, il montre son autorité. Alors, comment est-ce que je réagis, moi, en tant que disciple, pour aller chercher l'ânon? Ah, Seigneur, ok, mais je préférerais y aller toute seule, ce serait tellement plus simple. Ou alors, laisse-moi choisir mon coéquipier, mais quand même pas avec lui, pas avec elle, quand même. Ok, j'y vais. Mais pas maintenant. Il faut juste que j'aille voir un truc sur Internet. Oui, d'accord, Seigneur, je veux bien aller attacher cet ânon, mais ils vont quand même croire que je vais le voler. Est-ce qu'il ne faut pas quand même que j'aille parler à ces gens d'abord? Non, mais Seigneur, mais t'es sûr? Ah, j'ai pas envie. Ouais, je devrais prier, mais j'ai pas envie. Ah, puis qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi un ânon? Je continue la liste. Vous voyez ce qu'on a en nous? Moi, je n'ai pas eu besoin d'aller les chercher loin, ces arguments, parce que quand j'ai commencé à réfléchir à ce texte, ben, je suis allée voir ce qu'il y avait en moi et je me suis dit, waouh, je suis bien atteinte. est-ce que j'aurais pu, sans dire un mot, obéir? Et en arrivant vers l'annon, est-ce que je ne serais pas d'abord allé vers ses maîtres en disant, excusez-moi, hein, mais y a le Seigneur qui m'a dit que vous étiez au courant que... Qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais passé devant le nez des maîtres? J'aurais détaché l'annon comme si de rien n'était en me disant, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, j'arrête, vous comprenez ce que je veux dire. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'annon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'annon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. À ce stade-là, les disciples ont fait exactement ce que Jésus leur a demandé de faire. Ils n'ont rien retranché, ils n'ont rien ajouté. Une obéissance parfaite. Croyez-moi, au début du ministère de Jésus, je ne crois pas qu'ils auraient obéi de la sorte. Ils ont maturé, ils ont grandi, ils ont évolué. Et ça, ça devrait nous encourager en nous disant qu'on est en marche. On est en marche pour apprendre l'obéissance. Les disciples amènent l'annon à Jésus, ils mettent leurs habits sur cet annon et ils font asseoir Jésus. Jésus, donc, il était dans la région du Mont des Oliviers et ce qu'il doit faire, c'est descendre ce Mont des Oliviers pour remonter, pour arriver à la porte de Jérusalem. Ce n'est pas très, très loin, mais il y a une grande, grande, grande descente et ensuite, il faut remonter. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à Jérusalem, à ce moment-là, il y a énormément de monde. Parce qu'on est à une semaine, comme l'a dit Denis, une semaine, deux semaines, on est assez proche de la fête des pains sans levain, de la fête de la Pâque. Ces deux fêtes qui sont associées, qui sont ensemble, et c'est des fêtes où il fallait faire un pèlerinage à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'était l'endroit de la présence de Dieu, parce qu'il y avait le temple, et que Dieu se rencontrait avec les hommes dans le temple, parce qu'à l'époque, il fallait encore un intermédiaire, qui était le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Sauf que le culte et ce qui se passait dans le temple, même s'il y avait encore des sacrifices, c'était plus du tout comme avant. Quand il y a eu l'exil, c'est comme si la présence de Dieu était sortie du temple et qu'elle n'en est jamais revenue. C'était vraiment un esprit religieux, c'était un esprit cartésien, intellectuel. On faisait les choses parce qu'il fallait, c'est les pharisiens qui avaient l'autorité, qui avaient le pouvoir. C'était plus du tout comme avant. Mais il n'y avait quand même qu'un temple. Et c'est là que les gens devaient se rendre. Alors on est tout proche de cette fête des pains sans levain. Donc il y a plein, plein, plein de monde. Il y a des pèlerins. Et Jésus, les gens, ils savent qu'il est parti de la Galilée. Ça fait 3 ans et demi qu'il y a ce rabbi qui enseigne, qui a fait des miracles. Est-ce que ce ne serait pas lui le Messie? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il arrive à Jérusalem. Il y a des prophéties qui disent que le Messie il va venir établir son règne à Jérusalem, que Jérusalem va être glorieuse. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de faire? Alors les gens, ils s'attendaient à quelque chose d'extraordinaire qui allait se passer. Ils étaient en attente, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est dans ce contexte-là que les disciples mettent des vêtements sur un ânon, que Jésus s'asseye dessus, qui descend du Mont des Oliviers et qui remonte jusqu'aux portes de Jérusalem. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Toute la foule se met à louer, à adorer Jésus et à le proclamer roi. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et ils jettent leurs habits, ils étendent leurs habits devant Jésus comme on déroule un tapis rouge. Ils étaient en train de reconnaître que Jésus était roi. Pourtant, il n'y avait pratiquement rien de différent de l'habitude. Jésus était là, la foule était là. La seule différence, c'est qu'au lieu d'être debout et de marcher, Jésus, il est assis sur un âne. Et tout à coup, cet élément déclencheur fait que la foule est remplie du Saint-Esprit, qu'elle proclame la parole de Dieu et qu'elle reconnaît Jésus comme le roi, comme le Messie. Pourquoi? Eh bien, pour ça, il faut retourner à l'histoire de l'âne. Au verset 30, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Aucun homme. C'est comme si cet ânon, il avait été mis à part, comme s'il avait été consacré, comme s'il n'avait jamais été souillé pour une mission bien particulière. Ça, c'est une chose. Mais il y a une référence au livre des rois. Un roi 1, c'est à partir de 38 jusqu'à 40. Il faut bien se dire que les gens qui étaient là, les disciples, les pharisiens, la foule, c'est des gens qui étaient religieuses et qui connaissaient extrêmement bien la parole. Ils connaissaient l'Ancien Testament dans les moindres détails. Je vous lis 1 roi 38 à 40. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Gihon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait avec une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les gens reconnaissent cette image. Ils reconnaissent cette histoire. Quand Salomon a été sacré roi, il a été mis sur une mule. Et là, Jésus, il est assis sur un âne. Et ils font l'analogie. Mais il y a un autre texte. Et là, c'est dans 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 9 et le verset 13. On pourrait dire à partir de la moitié du verset 12. Il s'agit du roi Jéhu. C'est celui qui a tué Akab et l'horrible Jézabel. Donc, Jéhu qui a été une sorte de libérateur aussi pour Israël. « Ainsi parle l'Éternel, je te oins, roi d'Israël. » Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent « Jéhu est roi. » Nous avons 2 signes, un ânon, des vêtements sur lesquels Jésus est assis, qui rappelle des histoires de l'Ancien Testament où on a établi comme roi Salomon et Jéhu. Et ça, c'est des signes qui font qu'ils comprennent. Mais oui, Jésus est roi. Mais il y a encore plus. Et là, c'est une prophétie et c'est dans Zacharie, Zacharie 9:9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, c'est-à-dire peuple de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, peuple de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Tout le monde connaît ce passage et tout le monde attend un libérateur messianique, un libérateur pour la fin des temps. Un libérateur qui va venir sur terre et qui à un moment donné va revenir pour établir son règne éternel. Et ils comprennent que c'est Jésus. Ils le comprennent. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont remplis du Saint-Esprit au fur et à mesure que leur compréhension grandit et ils commencent à proclamer les vérités. Ils proclament la parole de Dieu. Ils proclament le psaume 118, verset 26. « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. » Dans le psaume 118, il y a marqué « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Mais eux, ils disent « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, parce qu'ils comprennent que Jésus est roi et parce qu'ils comprennent que c'est ce roi qui a été annoncé à Marie. À Marie, il lui a été dit que l'enfant qu'elle portait, il était de la lignée de David, que son règne serait éternel. Et ils font référence à ce passage parce que plus loin, ils disent « Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts », comme les anges ont proclamé quand ils sont allés visiter les bergers à l'annonce de la naissance de Jésus. Sauf que les anges n'ont pas dit « paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ». Ils ont dit « paix sur la terre et gloire dans les lieux très hauts ». Les anges, ils ont envoyé la paix du ciel sur la terre. Et c'est comme si les disciples, ils envoient la paix depuis la terre jusque dans le ciel. Il y a un mouvement, il y a un échange qui se fait. C'est comme s'il y a la prise de conscience que le ciel a rejoint la terre. C'est comme s'ils comprennent qu'ils sont en train de vivre un phénomène, je vous l'ai déjà dit, cosmique. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement spirituel, ce n'est pas seulement terrestre, ce n'est pas seulement spirituel, ce n'est pas seulement matériel, c'est les deux ensemble. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de dire, mais ce que les anges ont proclamé, ce que Zacharie, les prophètes ont dit, ce que l'histoire nous a enseigné, c'est en train de se dérouler sous nos yeux. Il est le roi. Alors croyez-moi, pour les pharisiens, c'est insupportable. Et là, ils se disent, non, 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 mais là, ça dépasse tout. OK, jusqu'à maintenant, on pouvait encore le tolérer, mais ça, on ne peut pas laisser faire. Alors ils disent à Jésus, mais Jésus, mais reprends tes disciples, t'es quand même d'accord que là, ça va trop loin. Jusque-là, jamais Jésus avait été d'accord de recevoir l'adoration. Il n'est pas venu pour se faire adorer, il voulait que les gens comprennent. Il voulait qu'ils saisissent toute cette parole, qu'ils comprennent ce que ça veut dire, bien au-delà d'un livre. Qu'est-ce que ça signifie entre le ciel et la terre? Et qu'est-ce que ça signifie quand Dieu se rejoint à l'homme, à sa création? Qu'est-ce que ça veut dire comme libération, comme bénédiction, comme renouvellement? Alors Jésus, il ne se défend pas, mais il dit, mais si les disciples se taisent, les pierres crieront. Si les vivants se taisent, ben le matériel va réagir. Et ces pierres, elles ont crié quand le temple a été détruit et qu'il n'est pas resté pierre sur pierre. Elles ont crié. Et moi, je crois qu'elles crient encore aujourd'hui. Quand on va en Israël, il y a tout qui transpire de la présence de Jésus et de la présence de Dieu. C'est tellement difficile pour les pharisiens. C'était tellement difficile pour l'esprit religieux. Et Jésus, il a prophétisé sur Jérusalem. Il n'a pas fait du triomphalisme. Il a accepté cette adoration parce qu'elle était juste et que c'était important qu'il soit reconnu comme roi. On sait après que ses disciples l'ont abandonné. On sait après que les mêmes personnes qui criaient Hosanna au roi, là, le mot Hosanna n'est pas là parce que Luc, il s'adresse à des gens qui sont grecs. C'est simplement pour ça qu'il n'y a pas un mot hébreu. Mais dans Matthieu, il est dit Hosanna, Hosanna. Ces gens qui ont crié Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, ils ont participé à crier Crucifie-le. Jésus, il savait tout ça à l'avance. Il le savait et c'est pour ça qu'il a eu cette prophétie sur Jérusalem. Tu n'as pas accueilli ton roi, tu n'as pas accueilli ton Messie. Ça a été qu'un moment, ce temps, où il a été sur son âne. Après, il a entré dans le temple, il a tout bazardé, il a tout retourné les tables, etc. Il a dit que cette maison serait une maison de prière et pas un repaire de bandits. Jésus, après, il est descendu de l'âne parce qu'il est venu comme un roi serviteur. Parce qu'il s'est abaissé pour devenir homme, mais il s'est encore plus abaissé quand il s'est sacrifié. Pour descendre au plus profond de notre souillure, dans la bassesse de notre souillure, de notre péché, de tout ce qui nous affecte, pour nous en délivrer. Il est venu pour souffrir. Il est venu avec humilité. Il est venu pour servir. Et l'esprit cartésien, l'esprit intellectuel, l'esprit pharisien, l'esprit religieux, l'esprit légaliste ne peut pas accepter ça. C'est à cause de cette mentalité de refus de l'humilité, cette mentalité de refus du service, ce refus de la souffrance que Jérusalem, le temple, a dû être détruit. Mais c'est aussi parce que maintenant, on ne doit plus faire de sacrifice dans le temple, parce que Jésus est le sacrifice parfait. Et parce que le temple, il existe toujours, mais il est différent. C'est un temple spirituel. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Nos corps sont le réceptacle, la maison de Jésus, la maison de Dieu. L'Église est le temple de Dieu. Et c'est Paul dans 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et dans Apocalypse 21, le verset 22, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Maintenant, c'est Jésus, le temple. C'est l'Église, c'est Jésus. C'est un temple spirituel. On ne peut plus faire de sacrifice. Si ce n'est le sacrifice de nos vies en obéissant au Seigneur. Alors, sommes-nous des chrétiens parce qu'on confesse le nom de Jésus-Christ? Ou sommes-nous des disciples? Est-ce que notre regard, il est centré sur nos besoins, nos désirs, nos envies? Ou est-ce que notre regard, il est sur ce roi de gloire qui est venu une première fois, qui va revenir, qui agit encore aujourd'hui, ce roi de gloire que je sers? Est-ce que mes yeux sont fixés et mes oreilles sont fixées sur sa bouche et sur ses gestes pour savoir ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il va faire, ce qu'il me commande de faire pour que je lui obéisse? Moi, ça me pose vraiment question par rapport à moi-même. Et je me rends compte combien j'ai tellement besoin d'aide. J'ai tellement besoin que le Saint-Esprit m'aide. J'ai besoin que Jésus me prenne par la main pour me conduire sur ce rocher que je ne peux atteindre, ce rocher de l'obéissance. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Mais moi-même, je sais que j'en ai tellement besoin parce que je vois à chaque fois où j'y arrive pas. J'ai l'impression qu'il y a plus de fois où j'y arrive pas que des fois où j'y arrive. Tellement c'est difficile de faire tout ce que le Seigneur nous dit, tout ce qui est écrit là-dedans, de le faire. Mais des fois, il nous dit même encore plus. Tout à coup, il y a une petite voix qui te dit « Appelle un tel, puis prends des nouvelles. Va voir boire un café avec un tel. Ou va faire telle chose, ou telle chose. Ouais, Seigneur, mais ok, mais juste pas droit tout de suite maintenant. Et on recommence la série. » C'est des choses toutes bêtes, hein. Il ne demande pas forcément des grandes choses, mais même dans les petites choses, c'est tellement difficile d'être fidèle. Mais on a un roi qui est tellement merveilleux. Alors que nos yeux soient réellement fixés sur lui. Et si je reviens à l'image du début, à cette histoire de jardin en plein air ou la serre chauffante, eh bien je crois que on doit accepter aussi de vivre l'adversité, de vivre une vie d'église où il y a toutes les générations, où il y a toutes les cultures, où il y a tous les caractères, où il y a des statuts sociaux différents, mais où toutes les générations sont là et que les plus anciens, ils s'occupent des plus jeunes, que les plus jeunes s'occupent de ceux qui sont plus anciens et qu'on s'entraide et qu'on accepte quand il y a de la diversité et qu'on apprenne à demander pardon, à pardonner, qu'on apprenne à acquérir de la sagesse dans les moments critiques ou fragiles, plutôt que d'aller se réfugier seulement dans des serres chauffantes. Il y a des moments de la vie où on doit aller dans une serre chauffante, sinon on sera vraiment en danger. Il y a des moments où on doit en sortir pour être pleinement dans le jardin, comme le Seigneur l'a prévu, et comme il nous forge et comme il nous équipe pour pouvoir vivre en plein air, sous son soleil. Je vous invite à prier. Et ce que je vous propose, c'est de prier avec moi. Si vous êtes concerné par tout ça, si vous vous dites, waouh, moi aussi, il y a un petit truc là que je devrais comprendre, ou quelque chose qui doit changer, ou j'aimerais aller un peu plus loin dans le fait d'être un vrai disciple, dans l'obéissance, bah, priez avec moi. Moi, je vais prier le Seigneur, mais faites de cette prière la vôtre. Vous pouvez prier à haute voix, allez-y, mettez vos mots ou bien prenez les miens, mais répandez votre cœur devant le Seigneur. Seigneur Jésus, moi, je te remercie. Jésus, je te remercie parce que tu t'es abaissé, parce que tu as été d'accord de prendre une forme humaine. Tu as été d'accord de souffrir de la faim, de la soif, des injures, des gens qui étaient toujours en opposition contre toi. Tu as été d'accord d'être environné de la souillure du monde, toi qui étais sans péché. Tu as été d'accord de t'abaisser. Tu as été d'accord, Seigneur, qu'on ne comprenne pas, qu'on ait les yeux obscurcis. Mais tu es venu. Tu es venu pour nous libérer, tu es venu pour nous guérir, pour nous changer, pour ouvrir nos yeux spirituels. Tu es venu pour nous libérer, pour qu'on puisse te voir tel que tu es, pour qu'on puisse participer à tes plans, à ton royaume, pour qu'on puisse même régner avec toi. C'est incroyable. Jésus, tu es venu aussi pour te révéler comme roi de gloire, comme roi merveilleux, un roi qui est venu instaurer un règne de paix, un règne de justice. Un règne de vérité. Tu n'es pas venu comme un cavalier conquérant, tu es venu sur un âne pour instaurer un royaume de paix. Jésus, moi je te demande ton aide, que mes yeux puissent être fixés sur toi. Et je te demande de m'emmener sur ce rocher que je ne peux pas atteindre, ce rocher d'une intimité encore plus profonde avec toi, ce rocher d'une obéissance qui fasse que j'oublie mes propres besoins, qui fasse que je suis d'accord de m'arrêter dans mes activités quotidiennes quand tu me dis de le faire, que je sois d'accord de me séparer de moi-même quand c'est nécessaire, que je sois d'accord de mettre tes intérêts avant les miens, de mettre les intérêts des gens que tu me confies avant les miens. Je te demande, Seigneur, dans toutes mes incapacités, dans mes manquements, je te demande de me conduire sur ce rocher que je ne peux atteindre. Viens à mon aide et viens à notre aide. Seigneur, je te prie pour l'Église. Je te demande de mettre tes convictions par ton Saint-Esprit. Tu t'es déversé dans le cœur des disciples pour qu'ils comprennent ce qui était en train de se passer, pour qu'ils aient leurs yeux illuminés, les yeux de leur cœur, qu'ils puissent comprendre que tu es le roi de gloire. Je te demande ce matin d'illuminer nos cœurs à chacun, que nos cœurs s'ouvrent, que nos cœurs s'ouvrent et que ton Saint-Esprit descende dans chacun d'entre nous pour que nous puissions contempler ta gloire, pour que nous soyons heureux de te servir, pour que nous soyons encouragés. Pour que l'Église foisonne de vie toujours plus, que tu te glorifies toujours plus dans l'Église, que tu ajoutes des membres à l'Église. Je te demande des membres de chaque génération, Seigneur. Je te demande que nous soyons capables de donner du soin à ceux qui en ont besoin, pour qu'ensuite ils puissent grandir dans le plein air, qu'ils soient capables, que chacun soit capable de supporter l'adversité, les grosses chaleurs et le froid. Que chacun puisse porter du fruit et s'épanouir dans n'importe quelle circonstance. Viens, Seigneur, viens parce que toi seul, tu peux nous rendre capables de ces choses-là. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous faisons des exploits. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, merci parce que tu viens encore visiter ton Église. Gloire à toi. Amen. Amen.